Face aux menaces, le chef d'état-major des armées veut plus de moyens. Il l'a écrit la semaine dernière dans une tribune publiée dans Les Échos. On aborde ces problèmes de défense, ce débat autour du budget de la défense ce matin avec Michel Goya, ancien colonel dans l'armée de terre, l'infanterie de marine. Il tient désormais un blog consacré aux questions militaires, La Voix de l'Épée. Vos questions au 01 45 24 7000. Jean-Marc est avec nous, Jean-Marc dans l'Essonne. Bienvenue sur l'antenne, Jean-Marc.
Oui, bonjour.
Michel Goya vous écoute.
Oui, alors face aux menaces, comme disent les militaires, comme dit l'état-major, quelles sont les menaces aujourd'hui? C'est les frères Kouachi, c'est les abrutis qui se jettent sur la foule avec un camion. Je vois pas bien l'intérêt d'avoir un équipement militaire super sophistiqué pour combattre ce genre de crétins. Et c'est la seule menace que nous ayons aujourd'hui, c'est celle-là. Les guerres conventionnelles, on n'en est plus là aujourd'hui, à part peut-être un peu au Mali et encore.
Sur ce point, Michel Goya.
Vous savez, en 1913, il y avait un livre qui s'appelait « La grande illusion » qui est sorti, qui disait que les guerres majeures s'étaient terminées dans la mondialisation à l'époque, les économies interpénétrées, tout ça. Ce serait vraiment stupide de faire une guerre. En 1929, on a mis la guerre hors la loi, c'est le pacte Briand-Kellogg, disant voilà, visiblement il n'y aura plus de guerre à long terme. En 1899, encore un peu avant, Churchill écrit une lettre en disant voilà, je suis né à mauvaise époque, moi qui voulais une gloire militaire, bah c'est foutu. Donc il faut se méfier, il ne faut pas insulter l'avenir, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a les guerres en cours, et puis il faut être capable de faire face à toutes les menaces. Effectivement, les guerres en cours, ce sont des guerres contre des organisations armées, des organisations djihadistes essentiellement, mais ça a toujours été le cas en réalité depuis 50 ans. Vous avez 600 soldats français qui sont tombés en opération depuis 1962. Il n'y en a aucun qui a été tué par une balle ou un obus d'une armée régulière. On a combattu essentiellement des groupes armés. Et donc, c'est quand même la tendance. Ceci dit, il faut être prêt à faire face à toutes les situations. C'est pour ça que nous avons aussi une force de frappe nucléaire, qui est l'assurance ultime face au nucléaire. Et au passage, d'ailleurs, cet arsenal nucléaire, il faudra aussi le moderniser, ce qui va coûter un peu d'argent quand même. Et donc, il faut être capable aussi de remonter en puissance et de faire face à toutes les possibilités. On voit bien ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe éventuellement en Ukraine, sur le pourtour de la Russie. Il y a la nécessité aussi de pouvoir faire face à des menaces, à des armées régulières, des forces beaucoup plus importantes qu'auparavant. Mais pour cela, il faut être capable effectivement de mener des opérations extérieures, comme celles que nous avons menées au Mali, l'opération Serval par exemple, et en même temps être capable d'aller beaucoup plus loin. Et cette capacité de remonter en puissance, éventuellement, le problème c'est que là aussi, cette capacité de remonter en puissance elle-même s'est trouvée considérablement réduite. Voilà, en 1990, vous aviez 3 millions de réservistes, donc prêts à rejoindre éventuellement les armées en cas de conflit majeur. Actuellement, il y en a 28 000. Donc on a réduit nos capacités de faire face à toutes les menaces. En réalité.
Michel Goya, vous avez entendu la question de Jean-Marc. Lui, il évoquait la menace intérieure terrorisme. En France, le terrorisme. Est-ce qu'on est aujourd'hui, selon vous, mieux armé pour combattre le terrorisme sur notre sol après les attentats de 2015 et 2016?
Le combat contre le terrorisme sur notre sol, ce n'est pas la fonction première des armées. La fonction première des armées, c'est de combattre des organisations politiques ennemies, si possible, à l'extérieur. La défense du territoire, ça relève du ministère de l'Intérieur, de ses services de renseignement, etc. Alors après, effectivement, on peut se poser des questions sur les moyens de cette sécurité intérieure, sur son organisation, mais ça ne relève pas normalement des armées. L'opération Sentinelle, en réalité, c'est une opération d'affichage politique qui n'a pas d'efficacité opérationnelle, qui a plus pour effet d'user les armées, en réalité, que d'user les terroristes.
Michel Goya, en tant qu'ancien militaire, comment voyez-vous le futur de notre guerre actuelle contre les terroristes de l'État islamique en Irak et en Syrie?
Alors, d'abord, il faut rappeler que l'État islamique existe depuis au moins 2003, sous ce nom d'État islamique depuis 2006, et que nous, Français, nous lui faisons la guerre depuis 2014. Donc, c'est un phénomène ancien, déjà, qui a failli être vaincu, il faut le rappeler, en 2007-2008, qui était résiduel et qui est revenu sur le devant de la scène, qui peut être vaincu à nouveau, mais persister sous une forme clandestine, comme auparavant, ou peut être remplacé par autre chose. Donc, c'est un phénomène qui est long, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, d'un point de vue militaire, ce que nous faisons concrètement, nous Français, contre l'État islamique, c'est relativement peu de choses. Il faut être clair là-dessus, malgré ce que disait le président, s'engageant à employer tous les moyens pour détruire l'armée des fanatiques. Je cite ces mots, en réalité, la guerre contre l'État islamique, pour la France, c'est 0,02% du PIB. Nous consacrons 20 fois plus d'argent public pour la SNCF que pour la lutte contre l'État islamique. En réalité, on a connu mieux comme mobilisation générale. On agit, ce n'est pas marginal ce que nous faisons. C'est...
Des bombardements ?
Oui, nous faisons quelques bombardements. En moyenne, en 2015, je crois que c'était 4 bombes larguées sur l'État islamique par jour, sur un territoire grand comme la Grande-Bretagne. C'est une batterie d'artillerie, ce sont surtout des instructeurs peut-être, qui ont formé plusieurs milliers de soldats irakiens. C'est quelques éléments des forces spéciales qui sont dans le nord du pays. Donc, encore une fois, ce n'est pas marginal, mais c'est en réalité, c'est faible. C'est faible. C'est pas nous, c'est nous Français, qui assurons de très loin le gros du combat.
Mais on le fait avec d'autres armées. Mais est-ce que ça veut dire, vous croyez-vous, avec ces bombardements, à l'anéantissement de ces terroristes de Daesh ?
Non. Non, non, non. Il faut reprendre le territoire, en Irak en particulier. Il faut reprendre les villes qui tient. Mais ce sera la fin d'une phase de l'État islamique, très certainement, la fin de sa phase territorialisée. Mais comme je disais tout à l'heure, il peut très bien revenir à une action beaucoup plus clandestine et les attentats ne cesseront sans doute pas avec la prise de Mossoul et la prise de Raqqa.
Bernard est à Rouen et il nous écoute sur France Inter. Bonjour Bernard.
Bonjour à toute l'équipe et bonjour à votre invité. Oui, très bien, il faut effectivement une défense. Je crois que c'est important pour l'indépendance de la France. Mais quel sens et quel intérêt ça peut avoir si ça ne prend pas une dimension européenne, au moins pour mutualiser cet effort militaire et pour la stratégie même.
La défense européenne, une Europe de la défense, on en parle depuis des dizaines d'années, Michel Goya.
Oui, oui, c'est un peu une arlésienne. Le problème, c'est que, premier, c'est qu'un outil militaire, c'est un outil politique. C'est un outil au service d'une politique. Donc c'est quelque chose qui doit servir, une entité politique. Est-ce qu'il y a lorsqu'il y aura un gouvernement européen, il y aura véritablement une armée européenne, mais pas l'inverse. C'est dans ce sens que ça marche. Donc ça reste l'outil d'un État. Fondamentalement. Ensuite, premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on se retrouve en Europe aussi avec des façons de voir les choses, des cultures stratégiques complètement différentes. Les Allemands n'envisagent pas l'emploi de la force de la même façon que nous, très, très largement. Donc, il sera très difficile de monter une organisation, enfin une opération de coercition avec des Allemands, par exemple. Beaucoup de nations européennes placent leur défense dans l'OTAN. Certaines nations européennes ne peuvent plus fonctionner en dehors de l'OTAN. Et en gros, pour parler simplement, beaucoup ont abdiqué leur défense au profit des États-Unis. En revanche, oui, ce qu'il est possible de faire, bien sûr, c'est de rationaliser un certain nombre de choses, de mutualiser un certain nombre d'équipements. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec les avions de transport. Et ça nous a été très utile lorsqu'on s'est engagé au Mali. On peut faire des programmes d'armement en commun. Alors, pas trop de monde, sinon ça devient très compliqué, ça devient très long et ça devient finalement très coûteux. Mais il y a un certain nombre de programmes bilatéraux qui ont été des réussites. Hein, l'avion Jaguar, le missile Milan avec les Allemands, etc., etc. Donc c'est possible. Maintenant, la défense européenne, pour l'instant, très clairement, c'est un vœu pieux.
Michel Goya, il y a une question qui revient souvent dans la campagne électorale qui se profile. Le retour du service militaire, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi j'ai connu le service militaire, j'étais dans des régiments d'appelés. Ce que je constatais à l'époque, c'est que ce service était devenu complètement inégalitaire d'abord, puisque vous aviez un quart d'une classe d'âge qui faisait son service, les filles ne le faisaient pas, et parmi les garçons, il y a à peu près la moitié qui échappait ou qui faisait des formes assez... autres de services en entreprise, etc., etc. Donc c'était devenu quelque chose de complètement inégalitaire. Personne ne l'a beaucoup défendu véritablement lorsque ça a été suspendu. Maintenant, il faut rappeler quand même un certain nombre de choses. D'abord, service militaire, dans le service militaire, il y a militaire, que c'est quelque chose qui a été conçu au départ pour défendre la nation. Donc, moi, je veux bien qu'on rétablisse ce service militaire, mais c'est pourquoi ? C'est pour aller à Raqqa, pour envoyer des soldats. Moi, je veux bien, mais il faut être cohérent, quoi. Si c'est pour rester en métropole, ça n'a pas grande utilité. Et deuxième élément, c'est que ça a posé des tas de problèmes concrets. On a supprimé tout un tas de garnisons, de sites, d'infrastructures. Donc, une classe d'âge, c'est 600 000 individus. Et comme je disais tout à l'heure, ça n'a de sens que si on fait quelque chose d'universel et d'égalitaire. C'est tout le monde ou personne, quoi. Donc, ça pose énormément de problèmes concrets. Et dans son sens, soit c'est un vrai service militaire. Dans ce cas-là, on prépare des gens à combattre, donc éventuellement à faire le sacrifice de leur vie. Soit c'est autre chose, et surtout ça peut être un service civique, etc., etc. Mais pourquoi pas ? Mais ça n'a pas rentré forcément dans un cadre militaire.
Mathieu est dans le Nord. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Michel Goya, ancien colonel dans l'armée de terre, vous écoute.
Alors, j'avais une question concernant le budget français, donc au niveau de la défense. Alors, on voit qu'au niveau mondial, il y a progressivement, que ce soit Chine ou Russie, une augmentation de ce budget. Est-ce que la France n'est pas complètement en décalage par rapport au reste du monde au niveau de son budget ? Et deuxième question, entre guillemets, c'est quel est, pour les autres pays, le pourcentage du budget militaire dans le budget global ?
Michel Goya, alors, le budget de l'armée a augmenté, pas suffisamment selon le chef d'état-major.
Non, il n'a pas augmenté, il est au niveau actuellement de 1982, mm-hmm. En monnaie constante. Hein,
monnaie constante. Ouais.
Globalement, depuis cette époque, on reste à 35 milliards d'euros, plus ou moins 10%, donc en réalité on stagne. Et ce que demande le chef d'état-major des armées, c'est de passer en réalité à 41 milliards d'euros, ce qui permettrait quand même de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, comparativement, donc nous stagnons alors que d'autres pays, eux, progressent. Les États-Unis sont dans une autre dimension. Hein. Si le contribuable français faisait le même effort que le contribuable américain en termes de défense, notre budget ne serait pas de 32 milliards, il serait de 80 milliards d'euros. Donc les États-Unis sont dans une situation, même s'ils ont réduit leur effort, où leur budget représente 40% du budget militaire mondial. Donc ça, ils sont, je dirais, hors catégorie. Mais après, vous avez la Chine qui a fait des efforts considérables. La Chine double son budget militaire tous les 5 ans, pratiquement. La Russie a également fait un effort considérable, même si elle marque le pas. Et puis, vous avez des pays comme l'Inde aussi qui progressent, le Japon. Et actuellement, en termes de classement, alors, c'est toujours un peu délicat, les chiffres. Est-ce qu'on comptabilise les pensions militaires ? Est-ce qu'on comptabilise la gendarmerie, par exemple, certains pays ? Enfin, c'est toujours un peu délicat. Mais on peut dire qu'actuellement, la France est au 8e rang en termes de budget de défense. C'est-à-dire qu'elle descend effectivement dans le classement assez régulièrement parce que tout simplement, nous stagnons alors que beaucoup d'autres pays augmentent. Alors, avec un autre effet à souligner, c'est que pendant une vingtaine d'années, on s'est retrouvé avec une période de supériorité technologique occidentale, on va dire, qui n'avait plus de concurrence comme pendant la guerre froide où les soviétiques pouvaient alimenter un certain nombre de nos adversaires. Donc cette période est en train de se terminer aussi, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des industries alternatives, voire concurrentes, et qui peuvent armer directement ou indirectement nos adversaires. Donc cela signifie qu'on va se retrouver, et c'est déjà le cas, avec des adversaires de plus en plus difficiles en réalité à combattre.
Et si le prochain président ne suit pas les recommandations du chef d'état-major des armées qui veut que l'effort de guerre soit porté à 2% du PIB, qu'est-ce qui va se passer ? Le grippage complet ?
Oui, je pense, oui. Il y a une implosion, il y a plusieurs facteurs. Alors, effectivement, pour l'instant, tout le monde parle dans pratiquement tous les programmes, on parle de ces fameux 2%.
Oui.
Mais voilà, et effectivement aussi, il y a eu un certain nombre de rectifications qui ont été faites, légères, une révision de la loi de programmation militaire qui a été faite l'an dernier, sous la pression des événements en réalité. Hein. C'est une réaction à des événements qui, par ailleurs, auraient, aurait dû être prévu, hein, assez logiquement. Maintenant, s'il n'y a pas d'événement, la tentation sera aussi très forte. Vous savez, le budget de la défense, c'est un peu un poulet rôti. Hein. Tout le monde regarde. Quand il ne se passe rien, bon, c'est la défense, c'est une assurance vie. Hein. C'est l'assurance vie, il n'y a pas de menace immédiate. Bon, c'est facile, ils ne sont pas syndiqués, ils sont disciplinés. En plus, il y a une énorme particularité du ministère de la Défense, c'est qu'il y a un très gros budget d'investissement. C'est le seul ministère qui a un tel budget d'investissement. Les investissements, on peut, au lieu d'acheter 10 hélicoptères, on va en commander 5. Et puis voilà, puis on fait des économies assez facilement sur la défense. Les deux tiers des suppressions de postes de fonctionnaires depuis un certain nombre d'années, ce sont des postes de militaires, parce que c'est le plus facile en réalité. Mais en faisant ça, effectivement, on engage l'avenir. On a un outil de défense qui est capable de faire de moins en moins de choses. Et s'il est capable de faire de moins en moins de choses tout seul, eh ben, si on veut faire quelque chose d'important, on est obligé de passer par les États-Unis aussi, très clairement. La question qu'il faut se poser avec une armée, c'est qui sommes-nous capables de vaincre avec cette armée? Or, concrètement, ben, nous sommes capables de vaincre de moins en moins de personnes. Nous sommes capables de faire une très belle opération au Mali, mais c'était 3000 combattants en face, armés légèrement, quoi. Donc c'est ce que nous sommes capables de faire, un peu plus, mais en réalité, guère plus.
Michel Goya, ancien colonel dans l'armée de terre, il tient un blog consacré aux questions militaires, La Voix de l'Épée. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Inter. Dans quelques secondes, Sophia Aram.